Et en tout cas, ce que je vais vous partager ce matin, certainement que je le ferai en deux fois, il y a de fortes chances. Dans un premier temps, on va donc ensemble survoler l'Épître aux Colossiens. Alors l'Épître aux Colossiens, quand on parle de Éphésiens, Philippiens, Colossiens, ben, vous savez, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux églises qui habitaient la ville de Philippe, la ville d'Éphèse. Et pour les Colossiens, bien, ce sont les chrétiens qui habitent à Colosse, qui habitaient à Colosse. Et ce n'est pas un livre qui est très long, il n'y a que 4 chapitres dans les Colossiens. Mais en tout cas, dans ce que la Bible nous enseigne au travers des Colossiens, ce que Paul va enseigner au travers des Colossiens, il va parler de ce qu'est ce qu'est Christ et puis ce qu'est l'Église. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi quand même ça m'intéresse. Savoir qui est Christ, j'ai tellement toujours envie d'en apprendre davantage, mais aussi de savoir qui est l'Église, parce que l'Église, frères et sœurs, ben, c'est moi. C'est toi, c'est chaque enfant de Dieu, hein, nous sommes l'Église. Et donc, Paul a eu à cœur d'écrire aux Colossiens et puis de présenter aux Colossiens, le portrait de Christ et puis, en tout cas, le portrait, le Père veut montrer qui est Christ, celui qui est notre Sauveur, hein, qui veut sauver chacun d'entre nous, qui veut te sauver toi. Et qui veut me sauver moi. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur de ce qu'il veuille me sauver et de ce qu'il a fait. Et donc, bien sûr, il nous a sauvés en mourant sur la croix. Et justement, en Épître, Paul va représenter cela aux Colossiens. Et ce n'est pas la seule chose. Excusez-moi, hein, j'ai un petit problème dans ma voix, mais j'espère que ça va aller quand même. Et en tout cas, Paul, on va le voir au travers de la lecture qu'on va faire, mais non seulement donc il va présenter Christ aux Colossiens, donc ce matin on va le lire, hein, et puis mais il va aussi présenter aux Colossiens ce qu'est l'Église en quelque sorte. Enfin, quand je dis ce qu'est l'Église, c'est-à-dire ce qu'est chaque enfant de Dieu et ce que doit être chacun d'entre nous en fait, parce que si on est ici ce matin, c'est tout au moins qu'on a le désir d'être un enfant de Dieu. Dieu agit dans nos vies et puis nos vies produit quelque chose qui est à la gloire de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Donc, Paul, dans l'Épître aux Colossiens, eh bien, il va donner certains éléments concrets qui montrent ce qu'est la vie de l'enfant de Dieu. Et donc, c'est quand même intéressant pour nous, aujourd'hui, les uns les autres, on vit dans la société. Eh bien, Paul, bien sûr, la société a changé depuis, mais ce que Dieu dit de l'enfant de Dieu, lui, ne change pas. La parole de Dieu dit que, la parole de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et donc, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, on va lire ensemble, je vais m'efforcer de ne pas trop commenter, parce que finalement, je pense simplement, je vais peut-être vous mettre le focus sur un certain nombre de points que l'apôtre Paul va donner, mais dans un certain sens, dans ce qu'on va lire ce matin, eh bien, je pense que rien qu'en le lisant, de toute façon, on comprend. Hein ? Alors, on va prendre, je vous avais d'ailleurs lu 2 versets mardi, il y a 15 jours, dans cette épître de Colossiens, au chapitre 1er, et là, on va relire un certain nombre de versets. Donc, je vais vous lire dans la version Parole vivante. Je vais donc vous lire ces versets, donc Colossiens, chapitre 1, et puis on va commencer à partir du verset 12. Et puis, je vous invite, comme je vous disais à l'instant, l'Épître aux Colossiens, c'est pas très long, hein, c'est 4 chapitres. Alors, on va pas lire 4 chapitres ce matin, hein, je vais juste reprendre les éléments, un certain nombre d'éléments. Donc, au chapitre 1er, et puis au verset 12, eh bien, ça commence bien ce verset, parce que il va nous dire ceci, Paul va dire, plein de joie, je ne sais pas si vous aimez la joie, moi j'aime bien être joyeux, hein, plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés, du pouvoir des ténèbres. Il nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute création, et il a la primauté sur toute créature. Il est vraiment le premier des premiers. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière trônent et seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il était là bien avant toute chose. Et par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toute chose, il est au premier rang, car Dieu l'a décidé. Toute la plénitude doit demeurer en lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Dans les cieux et sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Vous aussi, vous vous étiez écarté de votre destination primitive. Vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises en témoignaient. Et par elles, vous étiez devenus pour Dieu des étrangers, des ennemis même. Mais voici que le Christ a réconcilié avec lui, par la mort de son corps humain, vous pouvez à présent paraître saint, sans tache et sans reproche devant ses yeux, à une condition toutefois. C'est que vous demeuriez inébranlable sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. Cette bonne nouvelle que vous avez entendue a été publiée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le messager. Alors, je vais, donc là, c'est une première lecture que je fais ce matin, et déjà dans ce texte, bien, il y a quand même, je vous disais, Paul va présenter Christ, et puis quelque part l'action de Christ, et il parle aussi de l'Église. Et il y a quand même, j'aimerais relever faire le focus sur trois éléments. Premièrement, alors, en grand premier, je veux dire, quand je dis trois éléments, je vais en faire quatre. Donc le premier élément des quatre éléments, c'est que Jésus est le premier en tout. Ça, c'est ce que Paul déclare, mais il le déclare sous l'action du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu le Père dit aussi, Jésus est le premier en tout. Il est le numéro un. Et c'est à lui que nous devons rendre toute la gloire. Tout lui appartient. Alors ce Jésus, alors nous le savons, mais Paul remet les choses, il décrit l'action de Christ, ce qu'il est, et il va dire ceci, mais enfin, quand même c'est assez extraordinaire, il me semble de pouvoir se saisir du fait, j'espère que vous le faites en tout cas, du fait que Jésus est celui qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Alors, quand on parle du pouvoir des ténèbres, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Les ténèbres, vous savez ce que c'est? C'est tout le péché, c'est toute l'action de Satan, quelque part, au travers de notre nature aussi. Je vous rappelle que malheureusement, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais nous avons en nous cette nature adamique, on en parle régulièrement, et puis on le constate tous les jours. Que cette nature adamique, si on la laisse faire, c'est facile pour nous de pécher, c'est facile pour nous de faire des choses que Dieu n'apprécie pas. Mais il y a une bonne nouvelle, encore une fois. Et cette nouvelle, justement, ce que Paul va décrire, alors, il met ça en premier hein, dans l'Épître aux Colossiens, et puis il va dire, voilà, Jésus eh bien, est celui qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a délivrés de tout ce qui pourrait nous amener au mal. Il est la délivrance. Il est celui par lequel on a la délivrance. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ça, c'est ce qu'on a lu d'ailleurs ensemble au verset 13. Hein. Il nous dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transférés dans son royaume éternel. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout... Enfin, quand on saisit de cela, quand on rentre dans cette dimension-là, même si on est dans un chemin, mais en tout cas, Jésus, parce qu'il a accompli sur la croix, par son œuvre, par ce qu'il a fait et par ce qu'il est, eh bien, il nous... Enfin, moi, ça me semble tellement merveilleux, ça, de savoir que non seulement il me délivre du pouvoir des ténèbres, mais il ne me laisse pas là comme ça, mais il me prend et il m'emmène dans son royaume éternel. Je suis un enfant de Dieu qui ne fait plus partie de ce royaume des ténèbres, qui ne fait plus partie de ce royaume terrestre, on va dire, mais qui fait partie de quelque chose d'autre, qui fait partie de cette éternité dans sa présence, déjà alors qu'on vit ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez saisir ça ? Voilà en tout cas ce que Paul dit aux Colossiens. Il dit, voilà, vous êtes délivrés, Jésus vous a délivrés du pouvoir des ténèbres, mais pour vous transformer, pour vous transférer, pour vous prendre du pouvoir des ténèbres, pour vous prendre sous tout ce qui nous emmène et ce qui nous entraîne vers le péché, pour nous emmener, pour nous transformer, pour nous transférer dans une autre dimension, dans ce royaume éternel, dans cette éternité, déjà dans sa présence. Et puis, un autre élément qu'on va retrouver au verset 14, juste après le verset 13, eh bien, il dit, voilà ceci, étant unis à lui. Donc, ça, étant unis à lui, nous sommes unis à Christ quand on a choisi de devenir enfant de Dieu. Quand on a accepté que Jésus, cette première dimension, quand on a accepté d'entrer dans ce que Dieu veut pour notre vie de tous les jours, quand on a accepté de se laisser transformer par l'action de l'Esprit de Dieu, eh bien, on est uni à lui. On a fait une alliance avec le Seigneur. Et parce qu'on est uni à lui, alors ben, nous sommes rachetés de notre servitude. Et parce que nous sommes unis à lui, parce que, donc, en étant uni, en ayant fait cette alliance avec le Seigneur, notamment quand on décide, en passant par les eaux du baptême, par exemple, de le suivre. Mais si je passe par les eaux du baptême et puis que je ne fais rien de ce que Dieu veut, je pense que j'ai un problème. Mais si je passe par les eaux du baptême pour faire cette alliance avec le Seigneur en disant « Aujourd'hui, Seigneur, eh bien, tu deviens, je choisis que tu sois mon Seigneur, je choisis que tu sois celui qui m'inspire, je choisis que tu sois celui qui me conduit jour après jour, qui met en moi son empreinte. » afin que je suive tes pas, eh bien, ce que le verset 14 dit, ce que Paul dit aux Colossiens, alors nous sommes rachetés de notre servitude. Et encore une fois, hein, ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment, quand Paul déclarait qu'on est délivré du pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire que le fait de prendre cette décision-là, le fait de s'unir à Christ, le fait de choisir de devenir enfant de Dieu, eh bien, je suis racheté de ma servitude. Je suis racheté de cette nature adamique hein, qui m'entraîne au péché. Et puis parce que je suis racheté, pourquoi je suis racheté ? Parce que Jésus a payé le prix de mes péchés à ma place dans ce cas-là. Et Paul, c'est ce qu'il dit. Alors je sais que vous le savez bien, hein, on le sait tous ça, mais voilà, je reprends ce que Paul dit aux Colossiens. Et puis il dit, nous recevons ainsi le pardon de nos péchés. Unis à Christ, racheté, eh bien, je suis pardonné. Mais c'est quand même je rappelle, quand on a lu au verset 12, les deux, trois premiers mots, et Paul va dire plein de joie. Je ne sais pas si le fait de réaliser chaque jour que Jésus est celui qui nous délivre, Jésus est celui qui nous inspire, Jésus est celui qui nous conduit, Jésus est celui qui nous a délivrés, Jésus est celui qui a payé le prix de nos péchés, est-ce que ça fait de vous, hein, est-ce que ça fait en vous un sujet de joie? J'espère que vous y pensez, parce que, waouh, quoi. Alors, Jésus, dans cette première partie de l'Épître aux Colossiens, Paul va présenter cela aux Colossiens. Il dit, voilà, ça c'est vraiment la base. C'est la base de la vie de l'enfant de Dieu. Et puis, il va expliquer, dans le troisième focus que je voulais mettre sur cette première partie, eh bien, Jésus... Il va expliquer que Jésus, encore une fois, est la tête du corps de l'Église, qu'il est le premier en tout. Alors, ça veut dire quoi? Bien sûr, encore une fois, je suis en train de vous partager ce que vous savez déjà, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire quand même? Alors, je remets quand même le focus, même si on le sait. Ça fait toujours du bien, de toute façon, de se le rappeler. Jésus est la tête du corps. Vous savez que quand la Bible parle du corps de Christ, eh bien, il parle de l'Église. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit ici. Et vous savez que l'Église, ce sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire chaque personne que Jésus a intégrée dans son corps, parce que cette personne a choisi d'entrer dans cette dimension-là, a accepté Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur. Et Jésus est la tête. C'est-à-dire que... ça va très loin quand même, frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tête, c'est l'endroit où on va réfléchir, où on va prendre les décisions, où on va... c'est l'organe qui va nous diriger, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de me tromper, hein, on est bien d'accord. Hein, si je choisis d'aller à droite, c'est ma tête qui dit à mes pieds d'aller à droite. Si je veux aller à gauche, c'est ma tête. Quand Christ est la tête de l'Église, eh bien, si je suis l'Église, si je suis l'enfant de Dieu, concrètement, ça veut dire que eh bien, celui que je choisis, qui décide les choses que je vais faire, comment je vais les faire, eh bien, c'est Christ. C'est-à-dire je me soumets à sa souveraineté. Je me soumets à ses pensées, je me soumets à ses désirs. Si Dieu me dit, par exemple, aime ton prochain, alors c'est facile à dire, hein, mais eh bien, parce que c'est la tête qui me dit d'aimer, eh bien, je vais aimer. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Hein, mais voilà, Paul présente les choses qui sont importantes, ces notions qui sont importantes dans l'Église. Jésus est la tête, il est celui qui nous conduit. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que, alors peut-être qu'on peut se poser quand même la question, maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Jésus est celui qui me conduit vraiment? Est-ce que j'accepte que ce que Jésus désire, ce que Jésus veut, celui qui est la tête, hein, qui conduit, qui inspire, qui dirige, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Pour mon corps, pour ce que je suis. Alors, on va le voir. Parce que je vous disais tout à l'heure que Paul va donner un certain nombre d'éléments concrets aux Colossiens. Alors, je vais me dépêcher parce que je vois qu'il y a déjà moins 10. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 6. On va rentrer dans le vif. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ, et que vous l'avez accepté comme Seigneur. Alors, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein, marchez sous sa direction, c'est lui qui nous dirige. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Dans notre version, hein, c'est écrit que soyez enracinés de plus en plus. Ça veut dire qu'on est en chemin. Hein, mais en tout cas, nos racines, enfin, le fait de marcher en fonction de la volonté de Dieu, de prendre mes décisions en fonction de ce que Dieu est, de ce que Jésus veut pour ma vie, de plus en plus, eh bien, c'est ça qui conduit ma vie. Alors, je répète, je reprends le verset 7. « Que les racines de votre être s'enracinent en lui, construisez toute votre vie intérieure sur lui. » C'est « construisez toute vie intérieure ». C'est quoi notre vie intérieure? Moi, je crois que ça englobe notre âme, enfin, ce qu'on est, eh bien, enfin, nos émotions, nos sentiments, eh bien, on va aller puiser. C'est comme, vous savez, quand Jésus va prendre l'exemple de la vigne, du cèpe et des sarments, eh bien, c'est le cèpe, au travers du cèpe, la sève monte et puis elle vient nourrir les sarments. Elle vient nourrir la vigne. Eh bien, c'est ça qu'on doit vivre, en fait. Et quand Paul va prendre dans ce verset 7, en disant que ses racines, que nos racines, eh bien, elles s'implantent un peu plus jour après jour, qu'elles s'enracinent un peu plus profondément jour après jour en lui, quand Paul va dire « construisez toute votre vie intérieure en lui », eh bien, c'est-à-dire qu'on va puiser. Enfin, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien, on va aller le rechercher en Christ. On va aller le rechercher dans sa volonté. On va chercher les trouver déjà dans sa parole, mais aussi en communion, dans sa présence, quand on va prier, quand on va, quand on va lui laisser nous parler en quelque sorte, aussi dans notre relation avec lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée et marchez-y de progrès en progrès. Frères et sœurs, ne soyez pas découragés par tous vos manquements. On est malheureusement, si je puis dire, des êtres qui peuvent chuter quelquefois. Mais ne nous arrêtons pas parce qu'à un moment donné, on a chuté. On a lu ce verset, je crois, récemment, qui disait que Jésus n'est pas celui qui éteint le lumignon qui fume, il n'est pas celui qui brise le roseau qui est déjà plié. Hein. Le Seigneur veut toujours nous enlever et nous élever plus haut. Alors, que nous puissions marcher de progrès en progrès. Et puis, il va terminer ce verset en disant que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Ça, c'est que nos paroles débordent de prières de reconnaissance envers le Seigneur. Alors, au verset 9, il va dire « Or, c'est en lui seul et en son corps que réside réellement et de manière permanente toute la plénitude de la divinité. » On va le trouver nulle part ailleurs. Dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Dieu sait qui nous sommes parce que c'est lui qui nous a créés. Et c'est dans sa communion. J'aime bien ce verset, au verset 10, parce qu'il dit « Dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à la plénitude de la divinité. » Waouh ! Vous atteindrez en lui votre plein épanouissement. C'est ce qui va nous faire, ce qui sera le mieux dans notre vie, ce qui nous convient le mieux. Des fois, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui nous convient le mieux, eh bien, c'est d'être en lui. C'est ça qui est vraiment notre... C'est là où on va trouver vraiment notre bonheur. Et au verset 11, il va dire, « Étant unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie. » Et celle que demande le Christ, à celle que demande le Christ plutôt, et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses mauvais instincts. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ce que Paul est en train de dire. Dans notre relation avec le Seigneur, dans notre vécu, le fait de vouloir et de désirer, de lui appartenir déjà, d'avoir fait cette alliance au départ avec lui, mais de progresser, de s'enraciner, de trouver notre vie en lui, de trouver notre bonheur dans sa présence, de trouver notre bonheur dans son action, dans notre vie, eh bien, il y a ce processus que Christ vient mettre en nous et qui consiste à nous dépouiller de notre nature pécheresse. Jour après jour, on va mettre de côté tout ce qui nous emmenait vers le péché. C'est ce que Paul dit aux Colossiens, c'est ce que Paul dit à l'Église. Et puis, au verset 12, il va dire, dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec Christ, étant unis avec lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Ça, c'est l'action que Jésus accomplit. Alors, je vais continuer au chapitre 3, on va lire quelques versets encore et puis je vais arrêter là. Je vous disais que certainement j'y reviendrai, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous dire, mais en tout cas, il me semble important ce verset 3. Je vous disais que Paul va donner aux Colossiens des choses concrètes. Et dans ce chapitre 3 de Colossiens, ben justement, Paul donne des choses concrètes, des choses que je pense tous on peut comprendre. Et on va lire à partir du verset 8. Donc il nous parle de notre nature d'avant notre décision de suivre Jésus, d'avant ce processus où Jésus va intervenir dans notre vie. Et puis il dit ceci. À présent, bien sûr, rejetez tout cela derrière vous. Tout ce que notre nature, tout ce que le pouvoir des ténèbres, on va dire, voulait nous produisait en nous, eh bien, tout cela, rejetez-les derrière vous. Et puis, donc, je vous disais, il donne des choses concrètes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, plus de colère, ni d'irritation. Je ne sais pas si ça vous parle. Je pense que oui, je n'ai pas besoin de commenter. Vous savez ce que c'est la colère, vous savez ce que c'est l'irritation. Mais voilà ce que Dieu va commencer à produire en nous. Plus de colère, ni d'irritation. Plus de méchanceté, ni de médisance. Plus de vilains propos ou de paroles inconvenantes souillant vos lèvres. Ne mentez plus les uns aux autres, car vous avez déposé le vieil homme avec tous ses agissements et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur et qui s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Ces quelques mots montrent ce qu'est notre nature pécheresse, hein, cette nature qui nous entraîne facilement à la colère, à l'irritation, à la méchanceté, à la médisance, aux propos vilains, hein, aux mensonges, etc., etc. Mais voilà, Paul va dire, ça, on le rejette parce que de toute façon, ça ne fait plus partie de notre nature. Voilà, c'est cette nature qui est inspirée par Jésus, par l'action de Jésus dans notre vie, eh bien, elle ne produit pas ces choses-là. Alors, on les rejette. Et puis, j'aime ce verset où il est dit que cet homme nouveau, l'homme nouveau qui est nouveau parce qu'il y a cette... Comme on l'avait lu tout à l'heure, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres pour nous transformer dans son royaume éternel. Eh bien, on est devenu cet homme nouveau, cet homme ou cette femme, hein, bien sûr. Et alors, ce verset 10 qui nous dit « est revêtu de l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler, qui ne cesse, jour après jour, cet homme nouveau se renouvelle. Comment ? Eh bien, sur le modèle de son Créateur. Je ne sais pas qui vous prenez comme modèle dans votre vie. Si vous avez un modèle, d'ailleurs. Mais si vous n'avez pas de modèle, ou quel que soit le modèle que vous suivez dans votre vie, moi, je vous conseille en tout cas d'en avoir un modèle. Et quand je dis « moi, je vous conseille », ce n'est pas moi qui vous conseille, c'est ce que la Bible dit, et je sais que c'est juste. Dieu nous dit qu'on doit avoir un modèle, et Paul dit ici aux Colossiens que vous devez avoir un modèle, c'est celui de votre Créateur. Et notre modèle, ça doit être Jésus. Celui qui nous montre ce qu'on doit être, qui nous montre ce qu'on doit faire, eh bien, c'est Jésus. Donc, laissons-nous nous renouveler, pas sur notre vieille nature, mais sur la nature de Jésus. Et Alors, je vais avancer. Au verset 12, « Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir et qu'il vous aime, écoutez bien, tout à l'heure, on avait dit plus de colère, etc. etc. » Et ici, Paul va dire des choses concrètes, encore une fois. Il va dire « Ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. » La compassion. C'est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ça va, c'est ce qu'on vit. Si ce que tu vis, ben, si c'est ça que tu vis, alors c'est que tu es dans cette dimension que Dieu désire. Donc, ayez bon caractère. Faites preuve de patience. C'est quelquefois difficile pour certains d'entre nous, enfin même certainement pour nous tous, quelquefois de faire preuve de patience, mais ça c'est une des caractéristiques. Dieu, enfin Jésus est celui qui a été le plus patient, quoi. Il nous, voilà pourquoi tout à l'heure on disait qu'on doit se, enfin Paul disait aux Colossiens qu'il faut se renouveler selon le modèle du Créateur. Et ben voilà, faites preuve de patience. Et au verset 13, il va dire si vous trouvez à critiquer en votre frère, portez et supportez-vous les uns les autres. Vous savez, frères et sœurs, on aura toujours à un moment donné, je ne dis pas que c'est permanent, mais à un moment donné, on a toujours sujet de trouver à critiquer l'un ou l'autre. Parce qu'aucun d'entre nous, d'ailleurs, on n'est parfait. Donc, on peut toujours être sujet à une critique. Mais en tout cas, même si on peut être critiqué, et je vais dire même si on peut être justement critiqué, en tout cas, ou même si je peux trouver en l'autre à le critiquer de façon juste, on va dire ça comme ça, je dois le supporter. Supportez-vous les uns les autres. Et si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, est-ce que c'est déjà arrivé? Ben oui, bien sûr, c'est tout le temps. Enfin, c'est forcément arrivé. Et si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, alors soyez toujours prêt à vous pardonner. À vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Vous savez, la barre, elle est haute. Hein, il ne dit pas qu'on doit se pardonner comme nous, on s'est pardonné quand tout va bien. Il dit pardonner comme Christ vous a pardonné. Wow. C'est élevé. Hein. Mais par-dessus tout cela, alors mettez la ceinture de l'amour, car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Laissez régner souverainement dans vos cœurs, donc souverainement, c'est ce qui est en premier, hein. Laissez régner souverainement dans vos cœurs la paix instaurée par le Christ et que cela gouverne toutes vos décisions. On revient à cette notion où Jésus est la tête. C'est lui qui inspire, qui est l'inspirateur de nos décisions. Alors souvenez-vous-en. Membres d'un même corps, vous êtes appelés à vivre dans l'harmonie. Apprenez enfin à vous montrer reconnaissant que la parole du Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire la vraie sagesse, qui vous permettra de vous instruire, de vous avertir les uns les autres, avec cette dimension d'amour, bien sûr. De tout votre cœur, chantez à Dieu votre reconnaissance pour sa grâce, par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Et au verset 17, il dit ceci, faites tout ce que vous avez à faire. Dites tout ce que vous devez dire. Mais, enfin, c'est pas le mais, c'est moi qui le rajoute. Dans la Bible, il n'y a pas le mais. Mais voilà, il dit dans la dépendance du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à dire, bien, je le dis dans la dépendance, sous l'autorité, encore une fois, sous la tête qu'est Jésus-Christ. Et, frères et sœurs, voilà enfin les versets que je voulais partager avec vous. Vous voyez, dans ce texte de Colossiens 3, notamment, hein, mais je vous invite à relire ce livre de Colossiens, 4 chapitres, hein, c'est pas très long, mais particulièrement dans le chapitre 3 où Paul va donner des choses très précises, des choses qu'on est tous capables de comprendre et qui caractérisent la vie de l'enfant de Dieu, qui caractérise la vie de celui qui est sous l'autorité, qui s'est placé volontairement sous l'autorité de Jésus, où réellement Jésus est celui qui est la tête du corps que je suis en tant qu'enfant de Dieu. Je vais arrêter là pour ce matin. Je pense que je reviendrai sur certains éléments ou peut-être que j'irai un peu plus loin, mais je vois qu'il est déjà de toute façon 11h10 et on va arrêter là. Mais je vous invite à prendre en considération vraiment ce que Paul dit aux Colossiens ici, parce qu'en le disant aux Colossiens, il le dit aussi à chacun d'entre nous. Je suppose que les uns et les autres, on veut vivre heureux. Et dans l'Épître aux Colossiens, Paul dit que si tu veux vivre heureux, quelque part, eh bien, quand il dit au verset 12 du chapitre 1er, plein de joie, quand Dieu est celui qui est vraiment la tête pour ma vie, quand Jésus est vraiment celui qui est l'inspirateur. Et moi, je vous invite à vivre cette vie remplie de joie au-delà des circonstances, au-delà des situations, parce que notre espérance, parce que notre vie est conduite par l'action du Saint-Esprit, par Jésus-Christ lui-même. Alors que Dieu vous nourrisse par sa parole et qu'il vous aide à avancer, comme on l'a lu dans ces textes, de progrès en progrès, qu'on grandisse dans sa présence, que ce soit lui qui change, parce que c'est notre décision qu'il change nos vies jour après jour. Voilà, j'arrête parce que sinon, je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, je te prie ce matin que ta parole soit cette parole qu'on a lue, que tu as inspiré l'apôtre Paul alors qu'il écrivait aux Colossiens, Seigneur. Que cette parole inspirée soit cette parole qui soit écrite pour nous aujourd'hui, nous qui sommes l'Église, nous qui sommes tes enfants. Seigneur, qu'au travers de ces choses que nous avons lues ensemble ce matin, Seigneur, on puisse regarder peut-être là où on en est, là où tu dois encore travailler, là où tu dois raboter, Seigneur, nos pensées, nos cœurs, enfin nos vies. Seigneur, on accepte que tu fasses ton œuvre parce que c'est ça qui nous conduit au vrai bonheur. C'est ça qui nous conduit, Seigneur, à vivre dans la vraie joie. Parce que, Seigneur, la vraie joie, ben oui, c'est vrai, on la trouve en toi. Seigneur, je te prie, par ton esprit, de nous aider à comprendre ces choses. Je te prie, Seigneur, que dans ton esprit, dans le travail que tu accomplis en nous, tu puisses nous rendre jour après jour un peu plus conformes, Seigneur, à ta volonté, à tes pensées. Que jour après jour, dans notre vie, Seigneur, on puisse devenir, enfin, tu sois plutôt vraiment, Seigneur, cette tête, et que nous, le corps, on soit vraiment ses exécutants, parce que quand tu es vraiment la tête, et puis quand on exécute ce que toi, la tête, tu nous donnes, enfin, comme volonté, eh bien, ouais, c'est la meilleure des choses qui nous arrive quand on accomplit ta volonté, Seigneur. Alors, aide chacun d'entre nous. Seigneur, tu sais exactement là où on est né, les uns et les autres, quelle est notre vie, tu sais tout, Seigneur. Alors, conduis chacun de façon particulière en fonction des besoins précis de chacun d'entre nous. Seigneur, c'est ma prière ce matin pour l'Église, pour notre communauté, Seigneur, et pour chacun d'entre nous. Seigneur, sois la tête et sois celui qui nous conduit au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.